Ce matin, j'aurais voulu partager une exhortation à propos des dons d'inspiration. Vous savez, dans votre vie spirituelle, il y a une chose que vous devez comprendre. Si vous voulez vraiment avancer avec le Seigneur, il y a un certain nombre de principes qui sont très importants, qui vous permettront d'avancer avec le Seigneur et de rentrer dans certains domaines de la vie spirituelle dans lesquels vous n'entrerez jamais si vous ne découvrez pas cette dimension spirituelle pour
votre vie.
Il y a un certain nombre de choses que nous connaissons de la parole de Dieu et qui sont des choses absolument indispensables. Et ce sont des choses que nous apprenons au fur et à mesure en connaissant la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. La parole est notre fondation. La parole, on doit s'en nourrir. On doit passer du temps avec. On doit passer du temps avec la parole. Et la parole, c'est ce qui nous permet de connaître Dieu. Mais cette parole doit bien sûr être révélée dans notre cœur, dans notre esprit. Bon, au niveau de la prière, nous pouvons prier la prière de la foi. Nous pouvons louer Dieu. Ça, louer Dieu, c'est un choix. Le psalmiste, au psaume 103, disait « Mon âme, loue l'Éternel, il
s'exaltait
lui-même. » Au psaume 150, on n'a que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Et ça, c'est un choix que tu fais de louer Dieu ou de ne pas louer Dieu. Tu peux connaître certains principes de la foi, tu peux connaître la prière de la foi, tu peux connaître la confession de la parole de Dieu, et tout ça, c'est absolument indispensable. C'est quelque chose sur lequel tu dois baser ta vie spirituelle, et ça demande du temps de comprendre que cette parole peut devenir vivante dans nos cœurs, que nous devons la méditer, que nous devons la parler, que nous devons la proclamer, que nous devons nous en entourer. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu pas mal de chrétiens qui ont le problème suivant. C'est pas mon thème ce matin, mais je veux quand même en parler un peu parce que ça va déborder un peu sur mon thème. Il faut que vous sachiez que vous devez avoir une vie spirituelle personnelle, un culte
personnel.
Venir à l'église, ça ne doit pas être 100% de votre vie spirituelle. Il y a des gens qui viennent à l'église ou dans les églises tout le temps, qui même vont dans deux ou trois églises dans la semaine. Vous savez, il y a des gens qui vont à la prière matinale dans une église, qui vont au culte le dimanche dans une autre église, qui vont en réunion de semaine dans encore une autre église, et qui vont dans une quatrième église pour encore aller dans des concerts ou dans des trucs de louange. C'est important de fréquenter l'église locale, de participer à certaines manifestations, mais si c'est toute votre vie spirituelle, là vous avez un problème quelque part, un problème qui est sérieux dans votre croissance. Ceci montre une chose, c'est que vous cherchez tout le temps à vous nourrir à partir des autres. Ça veut dire que vous n'avez pas une vie personnelle de prière. Vous n'avez pas une vie personnelle de méditation de la parole de Dieu. Et sachez que si vous n'avez pas ce culte personnel, eh bien vous ne pourrez pas aller loin avec le Seigneur. Parce qu'il y a certaines choses du culte personnel qui sont importantes, que vous pourrez vivre dans une certaine mesure dans l'église, c'est normal, mais Dieu ne vous appelle pas à vivre seulement des choses dans l'église. Dieu nous appelle à vivre des expériences personnelles qui doivent être le fruit de notre relation avec lui, pas seulement le fruit au travers d'un ministère. Et ça, c'est bon, c'est sûr d'être touché quand on prie pour vous, etc.
C'est très bien.
Mais nous serons limités à ce que nous faisons dans l'église si chacun ne prend pas sa responsabilité responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de savoir comment tu te trouves au niveau de ta relation avec Dieu personnellement, comment tu te nourris, comment tu cherches à développer ta relation avec le Seigneur toi personnellement en mettant en pratique ce que tu entends à l'église, ou ce que nous pratiquons à l'église, comment tu continues de le pratiquer dans ta vie spirituelle, comment tu continues de le pratiquer dans ta vie spirituelle, comment tu le développes, parce que ça ne sert à rien que tu viennes à l'église et que tu ne pratiques seulement que certaines choses à l'église. Vous savez, quand on fait des confessions de foi, eh bien c'est une chose qu'on doit faire aussi quand on est seul, de proclamer la parole de Dieu dans nos vies. C'est quelque chose que tu dois apprendre à faire toi-même dans ta vie personnelle. L'église est en quelque sorte une école, pas seulement, mais c'est en quelque sorte une école. Je ne veux pas trop prendre cette expression parce qu'il y a des gens qui en ont abusé, mais nous apprenons des choses à être ensemble.
Et
nous les pasteurs, on vous exhorte à certaines choses. C'est parce qu'on a des raisons de vous dire ça. Si on vous dit prier en langue à un moment, c'est parce qu'on a des raisons de vous dire ça. On a des raisons pour cela. Si on vous dit venez, on va louer et adorer Dieu ensemble, c'est que nous avons des raisons pour ça. Mais ça ne doit pas s'arrêter à l'église. Ça doit continuer dans votre vie personnelle. Parce que nous allons bientôt démarrer les groupes de maison dans les prochaines semaines. On a déjà une trentaine de groupes qui sont prêts. Et je sais qu'on va exploser dans ce domaine-là. Mais sachez une chose, chaque groupe de maison va devoir être productif. Productif d'âme. Productif des âmes nouvelles. Des âmes qui ne sont pas sauvées. Productif de fruits. Des gens qui reviennent au Seigneur. Des gens qui sont égarés. Productif de guérison. Productif de baptême du Saint-Esprit. Productif de dons spirituels. Moi, j'attends beaucoup des groupes de maison. Et je vais beaucoup vous motiver par rapport à ça. Et particulièrement les leaders sont motivés. Mais je veux aussi que chacun puisse être motivé, parce que ça doit être un mouvement de l'église. Ça doit être un mouvement de l'église. Je veux que ces groupes de maison, ce soient des flammes. Et une des flammes qui doit être dans les groupes de maison, c'est la flamme de l'Esprit de Dieu.
Et
ce matin, je veux vous parler des dons spirituels, parce qu'il y a soit une méconnaissance parmi vous, parmi certaines personnes, et d'autres, vous vous posez pas mal de questions. Vous connaissez certaines choses, mais c'est pas très clair. D'abord, il faut que vous compreniez une chose. Dieu se manifeste par son Saint-Esprit. La Bible nous dit au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, elle nous parle des manifestations du Saint-Esprit en nous parlant des dons. Au verset 4, il est dit, il y a diversité de dons spirituels, charismaton en grec, dons de grâce, c'est-à-dire dons qui sont donnés gratuitement en vue de bénir les autres. Verset 4. Donc il y a diversité de dons de grâce, entre guillemets, de dons qui vont permettre à ce que la grâce de Dieu coule par toi. Et Paul explique ce que c'est. Verset 7, il dit, or chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation. Dieu se manifeste. Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Dieu touche la vie des êtres. Et il veut justement que son onction puisse toucher, que sa puissance puisse toucher. Dieu veut parler, Dieu veut révéler, Dieu veut faire des actes de puissance. C'est au travers des dons du Saint-Esprit que Dieu se manifeste. Aura chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et Paul va faire faire la liste de 9 dons.
J'ai pas le temps
de m'étendre trop sur les généralités sur les dons spirituels, mais je voudrais me focaliser particulièrement sur 3 dons. Et il va dire, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi ou le don de foi spécial par le même esprit, à un autre les dons des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, et regardez bien à partir du verset 10, suivez bien en Kirundi, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut.
Tuhere ku murongo 8 ati kuko umwe wese ahabwa namwe muyere jambo ry'ubwenge uwundi agaheshwa namwe mu jambo ryo kumenya uwundi agaheshwa n'uwo mwemu ukwizera uwundi agaheshwa n'uwo mwemu umwe ingabire zo kukiza indwara uwundi murayo kuva ku murongo 10 cyane cyane uwundi agahabwa gukora ibitangaza uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana uwundi agahabwa kurobanura imwemu uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi uwundi agahabwa gusobanura indimi ariko ibyo byose uwo mwemu umwe ni wabikore.
Donc ici Dieu nous parle qu'il y a 9 dons et il y a 3 dons qui disent quelque chose qui vont nous intéresser. Ces 3 dons qui disent quelque chose, ça va être la prophétie. Je vais expliquer ce que c'est que la prophétie dans quelques minutes. C'est la diversité des langues, et là aussi je vais en venir à quelque chose ce matin, et l'interprétation des langues. Alors à côté de ça, il y a des dons qui révèlent.
Paroles
de connaissance, c'est une révélation sur le passé et le présent. Paroles de sagesse, qui est une révélation sur le futur. Il y a aussi le don de discernement des esprits. En fait, c'est pouvoir entendre et voir dans le monde spirituel ce qui nous est impossible dans le naturel. C'est si quelqu'un reçoit une vision ou entend une voix audible. Tous les exemples que vous voyez dans l'écriture où des gens ont entendu une voix audible et ont vu des choses, les prophètes, toutes les prophéties qui nous sont données dans l'écriture sont des manifestations de ce don. Puis il y a 3 dons qui opèrent ou qui œuvrent.
Hari impano zitatu rero
ce sont les dons des guérisons. Quand nous prions pour quelqu'un, du coup la puissance de Dieu passe, la personne est guérie. Les dons d'opérer les miracles, le don d'opérer les miracles, et le don de foi spéciale. J'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Ce qui va m'intéresser ici, c'est la prophétie, diverses langues et l'interprétation des langues. Mais d'abord, je veux vous montrer quelque chose. Je veux que vous compreniez quelque chose. Parce que je veux que vous appreniez à entrer dans l'Esprit. Qui est baptisé du Saint-Esprit ici même avec le signe du parler en langue? Plus haut. Ok, maintenant le contraire. Qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, qui ne parle pas en langue? Bon, il y a quand même un certain nombre d'entre vous. Et ça, ce sont des choses, on fera des sermons là-dessus et puis on priera pour vous dans les prochains temps. Parce que vous avez besoin de le recevoir. Jésus va dire dans Marc 16 quelque chose qui est important et qui est l'entrée, la porte d'entrée aux prières, ce qu'on appelle des prières dans l'esprit, c'est-à-dire entrer dans l'esprit. Marc 16, Jésus va dire quelque chose de très important. Juste à la fin de l'évangile de Marc, au verset 17, il dit, voici les signes. Un signe, c'est un miracle particulier, un miracle qui frappe les mémoires. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui est croyant ici? Tout le monde est croyant théoriquement. On est théoriquement dans une église d'un culte de dimanche matin, donc la grande grande majorité des gens sont croyants nés de nouveau. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, on va vous donner l'occasion tout à l'heure. Donc il est dit qui accompagneront, qui suivront ceux qui
ont cru.
Si tu es un croyant, tu as juste à te retourner derrière toi, il y a des signes qui doivent te suivre.
Regarde derrière toi,
il y a juste les signes qui sont derrière toi. Retourne-toi, vas-y, retourne-toi. Ils sont juste là, les signes. C'est ce que la Bible dit. Ça va nous accompagner. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Jésus dit, en mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Donc la Bible nous dit qu'il y aura un miracle que nous pouvons tous vivre en tant que chrétiens nés de nouveau. C'est de pouvoir être remplis du Saint-Esprit, être baptisé de l'Esprit. Et à ce moment-là, il y a une manifestation, un signe que souvent on a appelé d'ailleurs dans le mouvement de Pentecôte à juste titre le signe initial du baptême. Et je suis un pentecôtiste. Amen. Moi j'ai été élevé à la Pentecôte. Et on nous a montré rapidement qu'on pouvait être rempli du Saint-Esprit. Et être baptisé du Saint-Esprit dans l'église où nous sommes nés de nouveau en France, les assemblées de Dieu, eh bien on croyait dans la doctrine de l'église d'une manière générale, de ces églises-là, il y avait bien sûr le baptême du Saint-Esprit. C'est devenu, je dirais, quelque chose d'international au niveau de l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Et en fait, on voit que ce que les disciples ont vécu à la Pentecôte, c'est quelque chose que nous, on peut vivre, bien sûr. Un bon nombre d'entre vous, vous avez déjà vécu cette expérience. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est loin d'être au Rebbe. C'est-à-dire parler en langue. C'est un des signes, mais c'est beaucoup plus que ça. La Bible nous dit dans Ephésiens 6:18 quelque chose d'important qui après va nous amener à comprendre comment on peut ouvrir son cœur pour que Dieu nous utilise. Parce que Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Maintenant, bien sûr, l'humilité est la grande règle et l'amour aussi est la grande règle pour être utilisé par Dieu. Comme le disait Bénin, Dieu ne cherche pas des gens qualifiés, il cherche des gens disponibles. Donc si tu es disponible et que tu ne comptes pas sur tes capacités personnelles, en disant Seigneur, moi, ce que je veux, c'est marcher dans l'amour, marcher dans l'humilité. Et Seigneur, je veux simplement être un instrument entre tes mains. Ça, c'est une prière. Une bonne prière. Hein, il y a des gens qui font des prières. Seigneur béni, Seigneur béni, Seigneur béni, Seigneur béni. Ephésiens 6, 18. Priez en tout temps par l'Esprit ou en étant dans l'Esprit avec toutes sortes de prières. Donc, la Bible nous dit de prier dans l'esprit. Et une des prières dans l'esprit, c'est la prière en langue. C'est la prière en langue. Je le dis, je le répète et je le répéterai. Passez du temps à prier en langue. Passez du temps à prier en langue. Quand vous venez ici, la première chose que vous devez faire, prier en langue. Pourquoi? Parce que ça va vous connecter quelque part. Ça vous permet de commencer à ouvrir votre cœur, votre esprit. Tu es dans ta maison, tu mets un CD de louange, d'adoration, une cassette. Qu'est-ce que tu fais? Commence à prier en langue. Appelle la présence de Dieu. commence à ouvrir ton esprit. Ce sont des choses simples que n'importe quel chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit peut faire. C'est pas compliqué. Dieu ne nous demande pas des choses compliquées. Mais Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Celui qui obéit à sa parole, qui comprend les principes, c'est celui qui avance. Tu te disponibilises. Tu te mets à disposition de Dieu pour qu'il puisse passer au travers de toi. Et pour ça, il faut que tu disponibilises ton esprit, que tu ouvres ton cœur, ton esprit. Si tu es fermé, tu ne t'en sortiras jamais. Rien ne se passera dans ta vie spirituelle. Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser dans les dons spirituels, je vais te dire une chose. Il faut que tu ouvres ton cœur, ton esprit. Si tu ne veux pas ouvrir ton cœur, ton esprit, les gens disent, mais comment on fait? Prie en langue. Passe du temps. Il y a des moments où ton esprit il est fermé. Il va falloir que tu l'ouvres. Il va falloir que tu te déconnectes avec les choses du monde, les choses du monde d'une manière générale. Parce que les gens veulent voir Dieu intervenir dans leur vie. Ils demandent à Dieu d'être des instruments. Et ils s'ouvrent au monde. Ils sont plongés dans le monde toute la journée. Et bon, quand on travaille, c'est normal quelque part d'être plongé dans son boulot. C'est normal. Mais tu dois avoir un temps personnel. Tu pries en langue. Tu dis, Seigneur, moi ce temps-là, c'est pour toi. Tu trouves un endroit où tu es tranquille, où tu t'isoles toi-même, et tu commences à te mettre à prier en langue. À prier en langue. Et là, tu vas voir que ton cœur va commencer à s'ouvrir. Tu vas sentir que vraiment, il y a des choses qui commencent à se passer à l'intérieur de toi. Et des fois, c'est pas facile. Des fois, ça met du temps. Parce que dans notre vie spirituelle, parfois notre cœur est fermé et notre âme. Elle est complètement ouverte, notre âme à tout. Tu fermes à peine tes yeux et tu as l'impression d'être dans un truc, dans le dernier film que tu as vu, dans ce que tu es en train de cuisiner, dans ce que tu vas faire avec ton argent à la fin du mois,
dans.
Et ça, c'est normal. Parce que ton âme a été absorbée. Elle a été absorbée par toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que ton esprit doit commencer à s'ouvrir. Et ça, c'est un exercice spirituel. Qu'il faut pratiquer régulièrement. On a besoin de grandir dans ce
domaine-là.
Si tu n'arrives jamais à te connecter spirituellement, c'est que tu as un problème dans ta vie. Le problème, c'est que tu te bloques toi-même. Dieu nous a donné tous les éléments pour que nous puissions ouvrir nos cœurs, ouvrir notre esprit, et qui nous emmène dans une autre dimension. Et c'est la dimension des dons spirituels. Quand nous prions ensemble, les dons devraient se manifester. Dans les groupes de maison, les dons vont se manifester.
Et
c'est pour ça que je veux que vous soyez enseignés correctement. Afin d'éviter n'importe quel débordement ou des choses peut-être qui sont un peu bizarres. Ou des choses que des gens ne comprennent pas bien ou font n'importe comment. Donc la Bible nous dit de nous mettre dans l'esprit, de prier par l'esprit. Donc si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu pries en langue, tu es capable d'entrer dans l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans l'Esprit? Ça veut dire que tu deviens de plus en plus conscient de Dieu et du monde de Dieu que du monde qui t'entoure naturel. Ça, c'est la vraie définition d'être dans l'esprit. Il y a des gens qui sont 100% dans le monde et 0% dans le domaine de Dieu.
Et
bien, il faut que ça s'inverse. Il faut que ça s'inverse. Des gens qui sont complètement dans l'esprit, c'est des gens qui reçoivent des visions. Si vous lisez l'Apocalypse, c'est ce que Jean va dire au début de l'Apocalypse. Il va dire, j'étais dans l'île de Patmos, le jour du Seigneur, un dimanche donc, et d'un seul coup, j'étais dans l'esprit. Et c'est là où il a reçu ses révélations, ses visions. Ça, c'est à être à 100% dans l'esprit. Dieu ne nous appelle pas à être à 100% dans l'esprit, exceptionnellement. Exceptionnellement. Et c'est là où des gens reçoivent des visions. Mais entre-temps, nous pouvons être de plus en plus conscient de Dieu et de moins en moins conscient du monde. Et ça, ça prend du temps, frères et sœurs. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le développement de notre nature spirituelle. Et ça commence quand tu apprends les bases d'être dans l'esprit. Tu passes du temps à prier en langue. Tu passes du temps à louer, adorer ton Dieu. Tu passes du temps à te nourrir de la parole. Tu passes du temps à pratiquer la parole. En fait, tu as vraiment quelque chose de personnel que tu vis. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie d'église. La vie d'église est fondamentale et super importante. Mais ça ne sert à rien de fréquenter une église locale si tu ne veux pas développer ta vie personnelle. Parce que l'église ne pourra pas tout faire pour toi. Et c'est à la limite du dangereux pour toi. Bah c'est l'église qui fait tout, les pasteurs ils connaissent tout, ils voient tout, ils connaissent la parole. Bon bah moi je suis là, j'écoute le sermon puis c'est tout. Apprends à réserver du temps pour ton Seigneur. À la maison. Apprends à réserver du temps. Commence à prier en langue. Tu pries en langue. Et après tu peux commencer à t'exprimer. À dire, Seigneur, voilà, je veux que tu m'apprennes, tu m'enseignes. Je t'invite dans ma vie. Cet esprit vient dans ma vie. Cet esprit, j'ai besoin de toi. Tu sais par quoi je passe. Cet esprit, j'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin de la parole. J'ai besoin, Saint Esprit, que vraiment tu m'aides. Que tu me montres la vérité. Parce qu'il a dit, Jésus a dit que le Saint Esprit nous conduira dans toute la vie. Quand tu fais ça, et que tu persévères, tu vas voir que le Seigneur va commencer à agir de plus en plus dans ta vie. Mais ça commence par la prière en langue. Parce que la prière en langue te permettra de te connecter facilement, de plus en plus facilement. Alors maintenant, je voulais quand même faire quelques petites parenthèses à propos du don des langues et de l'interprétation. Mais avant cela, on va parler de la prophétie. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Une prophétie, c'est un message donné dans une langue connue et qui est d'origine divine. Voilà ce que c'est qu'une prophétie. Et pour recevoir les dons spirituels, il faut que la présence de Dieu soit sur nous. Sinon, c'est pas un don spirituel. Sinon, c'est de l'imitation. Et on ne peut pas imiter les choses de Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui essaient d'imiter les choses de Dieu parce qu'ils les ont vues une fois et ils essayent de faire comme si c'était là. Et
ce qui va être bien, c'est que les gens qui ont vu
pour recevoir un don du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait une onction sur nous. D'un seul coup, que la présence de Dieu vienne sur nous et s'intensifie. Pour certains, je suis en train de parler chinois et japonais, pour d'autres, vous commencez à comprendre certaines choses. Et en fait, il faut que vous compreniez que la présence de Dieu peut venir sur vous. Comme de l'électricité. l'électricité qui vous traverse, comme quelque chose qui vient vous couvrir, qui est tangible, que vous pouvez ressentir d'une façon particulière. Maintenant, nous ne sommes pas appelés à vivre avec les sensations. Mais il est vrai, quand Dieu visite quelqu'un, il va ressentir des choses. C'est pour ça que des fois, des gens sont remplis de la présence de Dieu, ils se mettent à rire d'une façon incontrôlable. D'autres tombent par terre parce qu'ils sont comme électrifiés. D'autres vivent d'autres expériences avec le Seigneur, où le Seigneur leur parle à ce moment-là. Mais sachez une chose, la présence de Dieu peut venir sur un être humain qui est né de nouveau et qui est rempli du Saint-Esprit.
Dieu veut un peuple
qui est rempli et qui peut toucher, à qui il peut parler et au travers duquel il peut agir. J'ai bien dit au travers duquel
il peut agir.
Dieu veut ça pour chacun d'entre nous. Et il y a une progression. Il y a une recherche. Il y a une soif. Et quand tu dis au Seigneur, Seigneur, moi je veux être utilisé par toi. Seigneur, je veux m'ouvrir à ta présence. À ce moment-là, la présence de Dieu va commencer à venir sur toi.
Le
plus en plus fortement. Et tu risques d'avoir certaines manifestations qu'il est préférable que tu connaisses avant. C'est-à-dire pour lesquels tu dois avoir un enseignement, ce qui te permettra de pouvoir manifester ce que Dieu veut que tu manifestes d'une façon tout à fait scripturaire pour que ça bénisse. Si nous sommes utilisés par Dieu, c'est pas comme si on allait à la station service pour nous gonfler la tête. Ça c'est pervertir l'onction de Dieu. C'est très dangereux de faire ça. C'est très dangereux. C'est comme ça que le diable est tombé. Satan était un chérubin qui était loin, nous dit la parole de Dieu. Mais il s'est enorgueilli. Et il a chuté. Il a été précipité. Il a été éjecté par Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Donc le désir d'être utilisé par Dieu, ne pense pas. J'ai des problèmes, comment Dieu peut-il m'utiliser? Ça c'est un gros mensonge du diable. Ne dis pas j'ai des problèmes alors Dieu ne peut pas m'utiliser.
Si
tu as certains problèmes encore dans ta vie, vous savez, être utilisé par Dieu, ce n'est pas caractéristique qu'on est parfait. C'est qu'on est disponible. Certains, vous avez certains problèmes qui ne sont pas forcément de votre faute et dans lesquels vraiment le diable vous attaque. Dieu peut vous utiliser. Dieu a même un jour dans l'Ancien Testament utilisé un âne pour arrêter un prophète qui avait dévié dans l'onction et qui commençait à se laisser corrompre et pervertir. Dieu a utilisé un âne. Alors, si Dieu peut utiliser un âne, il y a bien plus qu'un âne ici.
Amen.
Il y a des enfants de Dieu,
le
fils du roi des rois. Donc, dis, Dieu peut m'utiliser. Dieu peut m'utiliser.
Dieu peut m'utiliser.
Dis-le, Dieu peut m'utiliser. Et dis à ton voisin, Dieu peut t'utiliser.
Dieu peut t'utiliser.
Amen.
Amen.
Tu as la capacité d'être utilisé par Dieu. Tu as la capacité d'être utilisé par Dieu. Maintenant, tout dépend, est-ce que tu veux ou pas? Et est-ce que tu comprends comment? C'est un peu l'objet de ce matin, de mon enseignement ce matin. Si tu apprends,
oui,
à te soumettre aux lois du Saint-Esprit, alors tu vas commencer à comprendre. Par contre, si tu dis, moi je veux faire ça comme ça, ça ne marchera jamais avec Dieu. Dieu, tu ne peux pas l'utiliser pour faire certaines choses. Tu peux avoir des résultats divins avec des méthodes divines. pas avec des méthodes humaines. Dieu n'entrera jamais dans des limites que tu as fixées. C'est toi qui dois entrer dans les limites qu'il t'a fixées. Il faut faire bien attention à cela. C'est pas à Dieu d'entrer dans ce que toi tu veux faire. Dieu n'y entrera jamais. La façon dont il veut t'utiliser, c'est selon les règles de sa parole et de comment le Saint-Esprit agit. Donc Dieu veut utiliser les frères et sœurs au travers entre autres des dons d'inspiration.
Alors,
comment ça se passe? Comment je peux savoir si je reçois une prophétie? Vous savez, d'abord, la première chose, c'est que les choses de Dieu sont saintes. Donc il faut toujours avoir un saint respect. Il faut toujours avoir une crainte révérente des choses de Dieu. Mais d'un autre côté, nous sommes appelés à marcher dans une certaine foi dans ce domaine. Lorsque la présence de Dieu vient sur quelqu'un, et que ça peut être très fort, la prophétie, qu'est-ce que c'est? À ce moment-là, tu es là, tu es en train de louer et adorer Dieu. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit vient sur toi, et tu sens comme une sorte d'électricité qui te traverse, et tu sens un message en langue connue, c'est-à-dire dire que tu comprends toi-même et que tu sens que ça comme une fontaine, ça veut sortir. Tu sens que c'est pas quelque chose que Dieu veut te dire à l'intérieur, mais tu sens que c'est quelque chose qui et tu sens qu'il y a un début de phrase qui est là, ou des fois des phrases entières qui sont là déjà. Et qu'est-ce que tu dois faire? Simplement les parler. Simplement les parler. Alors suppose que tu es dans un groupe de maison. Vous êtes là ensemble en train de louer. Vous êtes dans sa présence. La présence de Dieu est là. Et d'un seul coup, tu sens cette présence qui vient sur toi d'une façon spéciale. Très spéciale. C'est pas habituel. C'est quelque chose de différent. Et tu sens quelque chose qui commence à être dans ton esprit. Qui sont des phrases. Tu sens que ça veut sortir. Et au début, c'est très fort. Vous savez, les premières fois, on exerce un don spirituel. On en tremble de partout. Et en fait, on tremble de partout au départ. On est secoué dans notre esprit. Parce que le Saint-Esprit veut qu'on apprenne à être un canal. Et au début, être un canal, c'est difficile. Parce que la Bible nous dit dans Romains 12 qu'il y a un aspect où pour ouvrir sa bouche, il faut la foi. Romains 12, verset 6, il nous est dit: nous avons tous des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord ou en proportion de la foi. Donc la Bible nous dit qu'il y a un élément de foi pour ouvrir sa bouche en fait.
Tu
reçois dans ton esprit ce message qui est inspiré et tu sens que ça veut sortir de toi. Je
ne
parle pas là-dedans, je parle là-dedans. Dans l'esprit, d'accord? Dans votre esprit. Et à ce moment-là, tu dois avoir un élément de foi parce qu'il va falloir que tu ouvres ta bouche. Et souvent ta tête va dire: est-ce que ça vient du Seigneur? Seigneur, si je me trompe, ton jugement va tomber sur moi et je vais mourir sur le champ. Dieu est bon, mais là aussi il faut être équilibré. Une prophétie, ça revient. Ça veut sortir de toi, ça veut sortir de ton esprit. Et tu sens qu'il faut que tu le parles. Et là tu commences à ouvrir ta bouche. Mais au début tu doutes un peu parce que tu dis: oui mais Seigneur, y a seulement deux phrases là.
Seigneur,
je voudrais un chapitre complet. Tu apprendras une chose. Au moment même où tu vas commencer à libérer,
à parler
ce message sous l'inspiration du Saint-Esprit, très souvent, le Seigneur va te donner la suite. Des fois, il te donnera tout au départ. Des fois, il te donnera quelques mots,
que
tu les sortes et que ça suive. Et à un moment, tu vas ressentir quelque chose. L'onction, la présence de Dieu sur toi va commencer à s'arrêter. Alors là, tu fermes le robinet. Sinon, tu vas être dans la chair. Et tu risques de dire des choses que le Seigneur n'a pas dit et de signer à sa place. Et rappelle-toi que le contrefacteur est puni de servitude pénale. Alors la Bible nous dit, qu'est-ce que la prophétie dans 1 Corinthiens 14? Qu'est-ce que fait la prophétie? Ça, c'est une petite parenthèse. C'est pas complètement mon sujet ce matin, mais je vais vous expliquer l'exercice de base des dons spirituels, des dons d'inspiration. La Bible nous dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, donc quand tu prophétises, tu parles aux autres. Pour les autres. Tu vas parler un message inspiré pour les autres. Et qu'est-ce que ça va faire? Il est dit que c'est les édifices, ça les construit. Dans d'autres traductions aujourd'hui, on pourrait mettre les recharges spirituellement, leur fait du bien. Les exhorte. Exhorter, ça veut dire quoi? Ça veut dire ramener quelqu'un sur le bon chemin. Les consoles. Quelqu'un qui est affligé par un moment difficile. C'est pour ça que souvent vous réaliserez une chose. Les prophéties, c'est pour les bébés spirituels. Pourquoi? Parce que quand t'es bébé spirituel, t'as besoin de consolation. Quand t'es bébé spirituel, t'as besoin d'exhortation. Parce que tu sais pas encore marcher avec le Seigneur. Parce que tu te poses beaucoup de questions. Parce que souvent t'es découragé pour le moindre truc. Parce que tu reçois le Seigneur. Un jour, oh Seigneur, je suis sauvé. Et le lendemain, tu commences à dire, je sens plus rien, qu'est-ce qui se passe? Et c'est normal, ça c'est la vie des bébés spirituels. Et ils ont besoin régulièrement d'être consolés, d'être encouragés. Mais il y a un moment où tu vas commencer à vivre avec ta propre foi. Mais la plupart du temps, les prophéties sont pour les bébés spirituels ou pour amener certaines personnes qui ont des doutes, et d'un seul coup il y a une prophétie qui est donnée et la personne dit, mais ça me concerne ça. Et là elle est touchée, et comme dit la Bible à la fin de Corinthiens 14, à ce moment-là, c'est un converti déclara que vraiment Dieu est au milieu de vous, et ça sera une provocation pour que cette personne puisse se donner au Seigneur. Donc la prophétie est très utile. Maintenant, on pourrait continuer, ça c'est une simple prophétie. Dans d'autres prophéties, il peut y avoir un élément de révélation. Parce que dans la simple prophétie que nous venons de voir, c'est souvent des versets bibliques ou des pensées à propos de la parole de Dieu qui ressortent au moment opportun pour encourager, pour édifier, pour consoler la personne qui en a besoin. Maintenant, dans la prophétie où il y a un élément de révélation, Dieu à ce moment-là décrit une situation qui est soit passée, soit présente, soit à venir. La prophétie étant un véhicule, à ce moment-là, Dieu donne un autre don en même temps. Et là, quand il y a un élément de révélation, nous devons devons examiner clairement la prophétie.
Il y a
certains critères, c'est pas mon sujet ce matin.
On
doit faire passer la prophétie devant un certain nombre d'examens pour examiner si elle vient de Dieu ou pas. On a parlé ces dernières semaines à propos des faux prophètes,
à
propos des gens qui cherchent à détourner des brebis,
des
gens qui troublent, qui téléphonent, surtout aux proies faciles des dames riches, pour aller leur raconter des histoires.
Bien
vite, j'ai une révélation du Seigneur pour toi.
Mais
n'oublie pas l'offrande.
Il y a
vraiment des farceurs.
Hein.
Il y a des farceurs, je vous dis. Mais il faut juger la prophétie à partir du moment où elle a un élément de révélation à l'intérieur. Alors maintenant, on va venir aux deux autres dons. Parce que ce matin, je vais faire un peu un survol pour vous provoquer quelque part.
Pour
que vous puissiez prier par rapport à ça. Parce qu'il faut que les choses de l'esprit avancent dans chaque
personne.
C'est la volonté parfaite de Dieu. Alors la Bible nous parle d'un don de parler diverses sortes de langues. Alors ça a créé un peu de confusion parce que la Bible dit, c'est Paul qui dit à la fin du chapitre 12 au verset 29, il dit: tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, les dons des guérisons, tous parlent-ils en langue?
Alors
là, il y a une confusion parmi certaines personnes qui ne savent pas interpréter la parole. Et ici, ça semble contredire ce que Jésus dit. Jésus dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En étudiant clairement la parole de Dieu, on voit quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il manifeste le parler en langue. Et on voit que ici, Paul dit: tous parlent-ils en langue? Et la réponse est non. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction entre ce que Jésus a dit et ce que Paul dit? Non.
Oh yeah.
Parce qu'il y en a un qui parle du signe du baptême du Saint-Esprit,
qui
est vraiment une bénédiction promise pour chacun d'entre nous, et l'autre qui est Paul, le premier étant Jésus, l'autre étant Paul, il parle dans le contexte des dons du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue singulier. Une langue que Dieu te donne, qui est surnaturelle, qui est un langage de prière dans l'esprit. Et Paul parle d'un don spirituel qui est donc ponctuel, puisque les dons c'est ponctuel, Dieu donne pour faire quelque chose spécial, que Paul nomme le don de diverses langues. Donc langues plurielles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Et d'ailleurs, dans le passage de 1 Corinthiens 14, méfiez-vous quand vous lisez ce passage, parce que Paul parle des deux choses, de la prière en langue, mais il parlera aussi, à partir du moment où il va commencer à ajouter interprétation derrière, il parle du don des langues. Alors certains parmi vous, vous avez vécu ce genre de choses. Vous étiez en train de prier en langue, tranquillement, vous étiez en train de prier en langue. Donc vous étiez en train d'adorer le Seigneur. Vous étiez peut-être dans un groupe de prière ou avec plusieurs autres chrétiens. Et d'un seul coup, La présence de Dieu est venue sur vous
d'une
façon très spéciale. Rappelez-vous d'une chose. C'est selon la volonté du Saint-Esprit. Les dons sont selon la volonté du Saint-Esprit. Prière en langue, tu peux prier en langue quand tu veux. C'est un don qui est résident en toi. Mais les 9 dons spirituels, ce sont des dons qui sont ponctuels. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui va initier et te transmettre quelque chose à un temps T.
En
mettant sur toi une onction, la présence de Dieu qui vient de façon spéciale.
Et tu es en
train de prier en langue, et d'un seul coup, tu sens ton langage en langue changer.
Ce n'est
pas ta prière en langue habituelle.
Vous
avez remarqué que quand on prie en langue, il y a une certaine répétition des mots qu'on dit.
D'accord.
Qui a déjà remarqué ça quand on s'aperçoit que ce sont des mots qu'on répète, qui viennent de notre esprit, mais on s'aperçoit que ça a l'air d'être un vocabulaire limité. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais je n'ai pas le temps ce matin.
Mais
en fait, au moment où vous recevez un don spirituel, le Saint-Esprit descend sur vous avec
puissance.
Et à l'intérieur de votre esprit, il y a un langage qui est différent de votre langage de prière. Qui commence à sortir. Ça veut sortir, comme encore une fontaine. Et là, vous sentez que vous avez envie de parler ces choses fort. Je
ne
parle pas de la prière en langue ici.
Je parle
d'un seul coup, le Saint-Esprit qui met un message qui n'est pas votre langue habituelle de votre baptême du Saint-Esprit, de votre prière dans l'Esprit. Et d'un seul coup, ça change complètement. Il y a cette présence de Dieu qui est la forte. Et vous sentez que ça veut sortir très fort. Et tant que vous ne le dites pas, vous êtes sous pression comme une bouteille de coca qu'on se coupe. Et vous êtes... Et vous sentez vraiment quelque chose qui veut sortir de vous. Et à ce moment-là, quand vous commencez à dire ces choses, vous sentez l'onction de Dieu qui passe.
Comme ça.
Et vous êtes en train de donner un message. Et là, la Bible nous dit qu'il faut qu'il soit interprété. Voilà ce que Paul va dire au verset 5 d'un Corinthiens 14. Il dit, je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc un message en langue est donné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre. Quelqu'un va recevoir l'interprétation. Qu'est-ce que c'est que l'interprétation? Le don d'interprétation des langues, c'est un message surnaturel dans une langue connue qui donne le sens, l'interprétation, le sens du message en langue qui vient d'être donné juste avant. Donc d'un seul coup, un message en langue est donné. Tout le monde se tait. Et d'ailleurs, quelqu'un qui doit donner l'interprétation.
Ce
n'est pas l'interprétation avec sa tête. Hein. Ça, tu
ne
peux pas donner l'interprétation avec
sa tête.
C'est un autre don qui vient. Le Saint-Esprit vient. Et ces deux dons marchent obligatoirement ensemble. Quand il y a un don de parler diverses langues que le Saint-Esprit donne dans une assemblée dans un groupe, obligatoirement le Saint-Esprit va donner l'interprétation à quelqu'un. Le plus souvent, c'est la personne qui a donné le message en langue qui va recevoir
l'interprétation.
Mais pas toujours. Des fois c'est quelqu'un d'autre dans le groupe de prière, dans l'église, qui reçoit l'interprétation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne donne l'interprétation du message, ce qui ne veut pas dire dire la traduction mot à mot. Le mot grec signifie bien interprétation. C'est-à-dire que parfois vous pouvez avoir un certain message en langue qui dure un certain temps et avoir une interprétation qui est beaucoup plus courte. Et l'interprétation va être le sens du message en langue. Et ce don des langues, quand on message en langue plus interprétation, ça équivaut à une prophétie. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Dieu a fait ça? Vraiment. Non, c'est rien. Mais Dieu fait ces choses. Et la Bible nous en parle. Donc là encore, rappelez-vous, frères et sœurs. On n'est pas là pour dire au Saint-Esprit, tu dois faire comme ci ou comme ça. C'est nous qui devons apprendre à entrer dans l'Esprit. À nous ouvrir. Et quand Dieu veut, il distribue des dons. Par contre, la Bible est claire. Dans le monde de l'Esprit, il y a deux extrêmes. Dans lesquels nous ne devons pas aller. La première, c'est de bloquer l'esprit. Ça, c'était les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, eux, ils bloquaient l'esprit. Ils éteignaient l'esprit. Regardez dans les Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Et il y a trop de gens qui éteignent l'esprit. Qui sont là, qui disent, ah, moi, les trucs, les langues, je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit, qu'il puisse prier en langue, et qu'il ait un don de parler diverses langues et une interprétation, j'en sais rien. Je n'en sais rien, par contre, je sais une chose. C'est que si je m'ouvre à l'esprit, je peux vivre ces choses et être une bénédiction pour la race humaine. Donc si tu veux être une bénédiction pour la race humaine, ce que tu es appelé à être, parce que si tu es béni, tu dois déverser ta bénédiction sur les autres. Tu dois être un instrument pour les autres. Et je veux vraiment que ça rentre en vous dans les groupes de maison. Dans les groupes de maison, je veux que ça rentre en vous. Je veux que vous compreniez que vous devez être un instrument pour les autres, pour être une bénédiction pour les autres. Donc ça, c'est le premier extrême qu'on voit. Le deuxième, c'était les Corinthiens. À eux, ils pouvaient croire tout et n'importe quoi. L'important, c'est qu'on se dise serviteur de Dieu. Et Paul les reprend sérieusement au début du chapitre 12. À partir du verset 1, Paul va les reprendre sérieusement. Il va leur dire, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant les dons spirituels. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoué à des idoles muettes, c'est-à-dire à des démons, vous rendiez des cultes aux démons. Et au verset 3, il va leur dire quelque chose. Il va leur dire, c'est pourquoi je vous le déclare. Nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Apparemment, ils croyaient des choses tellement bêtes. Quelqu'un se pointait et disait, voilà, moi, voilà, j'ai une parole de Dieu. Et ça grognait et ça insultait le Seigneur Jésus. Et Paul leur dit non. Bon, il y a des gens qui sont fanatiques. Il y a des gens qui reçoivent 5 prophéties par jour et 3 visions. Non. Si l'Esprit de Dieu est là, s'il est sur toi, s'il est en manifestation, donne ce que tu reçois du Seigneur et ne sois pas timide. Par contre, si l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, tu marches par la foi. Tu marches par la foi. Tu marches par la foi. Tu n'es pas là en train d'essayer de faire comme si les choses étaient là. Si l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, que tu ne reçois pas un don spirituel, ne dis pas ainsi parle le Seigneur. Parce que là tu mens. Je veux dire une chose. Quelqu'un qui fait semblant comme si c'était Dieu qui fait les choses, c'est quelqu'un qui ne peut pas être utilisé par Dieu. Parce que je vais vous dire une chose, Dieu donne sa gloire à personne. Dieu est jaloux de sa gloire parce qu'il sait que quand l'homme commence à ramasser un morceau de gloire, c'est là où il s'enorgueillit. Par contre, être un canal de ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est extrêmement important. On va prier un moment. Père Céleste, je te remercie pour ta bénédiction de ta parole. Et Père, je prie pour cette église. Je prie, Père, pour qu'il y ait une compréhension de plus en plus de la part des frères et sœurs qui sont là. Je prie pour que, Père, ils sachent de plus en plus utiliser la prière en langue pour communiquer surnaturellement avec toi. Père, je prie pour que tu leur donnes cette révélation nouvelle, fraîche de ta parole concernant la prière langue et entrée dans l'esprit. Je prie pour que de plus en plus de frères et sœurs puissent expérimenter l'onction tangible de ta merveilleuse présence. Je prie, Père, aussi pour que de plus en plus tu utilises les frères et sœurs dans le domaine des dons du Saint-Esprit et particulièrement dans les groupes de maison. Je prie, Père Céleste, pour que de plus en plus on puisse voir la puissance manifeste de Dieu au milieu de ton peuple, Seigneur. Et je te remercie pour cela, dans le nom précieux de Jésus. Amen.